Bonjour, je m'appelle Axel, je fais partie du collège Val-de-Charente, mes camarades et moi, et nous sommes du club de l'espace création qui consiste à travailler dans l'audiovisuel et le journalisme. Et nous avions quelques questions à vous poser par rapport à votre BD Les Enfants de la Résistance. Quelles photos avez-vous sélectionnées pour faire votre vignette de bande dessinée ?
Des photos, oui, parfois il y a des photos, mais la plupart du temps il s'agit de dessins. Quand évidemment il y a un endroit qui existe, je veux dire, si je dois dessiner la Tour Eiffel, je vais prendre une photo de la Tour Eiffel, c'est évident. Si je dois dessiner un camion Opel Blitz, il me faut une photo de camion Opel Blitz parce que je ne vais pas l'inventer. Mais la plupart du temps, ce sont des photos de livres sur la guerre ou de même trouver sur Internet, celles qui correspondent le mieux. Et parfois, des objets en 3D. On peut trouver par exemple certains véhicules en 3 dimensions, ce qui permet de les tourner dans le sens où on veut avant de les dessiner, évidemment. Donc ça aide beaucoup. Les photos, en réalité, j'en utilise assez peu. C'est essentiellement du dessin.
Je vais passer le micro à mon camarade.
Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai aussi quelques questions à vous poser. Où avez-vous trouvé toutes ces photos historiques ?
J'ai déjà répondu. Mais oui, donc les livres, il y a énormément de livres qui traitent de cette période-là. Il y a Internet, qui est une grande bibliothèque dans laquelle il est possible de puiser. Et mais il y a, comme je disais, il y a beaucoup de dessins, beaucoup d'observations, tout simplement. Quoi qu'on fasse, je dirais, bon, les Allemands, c'est des Allemands, etc. Mais les villes, les villages restent les mêmes qu'à l'époque, donc c'est beaucoup d'observations. Il faut simplement se promener dans n'importe quel endroit et se dire, ah, ce bâtiment-là, il n'existait pas, celui-là, il est plus âgé, celui-là, il est moins âgé. Et en fait, ça permet de se faire une idée. Et il y a énormément d'observations, beaucoup plus que de photos dans les planches des enfants de la Résistance. Bon, quand je suis dans un endroit, la première chose que je me demande, c'est qu'est-ce qui date de cette époque-là, qu'est-ce qui était là avant, qu'est-ce qui a été rajouté après. Et à force de faire cet exercice, ben, je finis par dessiner cette époque comme si c'était la mienne.
Donc les photos qu'on trouve dans le dossier didactique à la fin des albums, ils viennent pour la plupart malgré tout d'Internet. Mais attention, Internet, il y a plein d'erreurs. Et c'est pas parce qu'on voit 10 fois la même information sur Internet que c'est la bonne. Non, tout le monde copie tout le monde sur Internet. Donc il faut vraiment faire attention et il faut recouper constamment ses ressources. Et quand on voit une photo, elle n'est pas forcément bien légendée. Et ça ne veut pas forcément... On n'est pas certain de l'information de cette photo et c'est très important. Donc, on peut trouver des photos très intéressantes sur Internet, mais il faut être certain de la contextualisation. Et pour ça, c'est plus important que de trouver la photo, c'est de savoir d'où elle vient réellement, quoi. Et donc, ça, on fait très, très attention. Donc, ça, on a beaucoup recoupé et demandé des conseils et éventuellement à des historiens. Et surtout, aller sur des sites de référence. Il y a quelques sites de référence qu'on connaît et là on sait que ce sera très très bien fait donc c'est important parce qu'il y a pas mal de gens qui s'improvisent historiens et qui disent un peu n'importe quoi en fait hein, sur Internet. Il faut faire gaffe quoi.
J'ai une photo comme ça sur Internet, une jeune fille qui envoie un coup de pied à un prisonnier visiblement. Une jeune fille envoie, lors de la libération de Toulon, un coup de pied à un prisonnier allemand. La même photo, le site plus loin. Une jeune fille envoie un coup de pied à un collaborateur fait prisonnier lors de la libération de Brest. Troisième fois, la même photo. et ça continue comme ça. Et en fait, je suis incapable de dire où était cette jeune fille à qui elle envoyait un coup de pied.
Pourquoi avez-vous voulu orienter la BD vers les enfants dans la Résistance ?
Je vais laisser parler le scénariste, mais la Seconde Guerre mondiale m'a toujours intéressé en tant que dessinateur. Maintenant, dessiner des soldats en uniforme qui se tirent dessus, c'était pas trop mon idée. Et donc j'avais laissé ça de côté depuis très longtemps, jusqu'au jour où il a décidé qu'il en serait autrement.
Alors moi, j'étais pas du tout intéressé par l'idée de Benoît de faire une histoire de guerre avec des soldats. Mais je savais qu'il avait envie de raconter cette période-là en dessin et je savais qu'il le ferait très bien. Et que c'était un fantasme et une idée forte qu'il avait chez lui. Donc je lui ai proposé de raconter une histoire vue du côté des civils. Et moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Et en fait, Benoît s'est rendu compte que ça l'intéressait beaucoup plus aussi. Donc le sort des civils et des enfants pendant la guerre, ça me touche. Je me dis, là, j'ai envie de passer du temps et de réfléchir à ça. Et c'est en échangeant nos idées et nos souvenirs familiaux qu'on s'est rendu compte qu'on avait eu tous les deux un grand-parent résistant. Et on s'est dit, voilà, nos enfants, nos personnages là, ce seront des enfants résistants. Ils vont faire quelque chose, ils vont pas accepter l'armistice, ils vont vouloir faire quelque chose pour lutter et ils vont participer à l'invention de la résistance au début de l'occupation, donc à l'été 1940. Donc ça c'est toute l'histoire du tome 1. C'est comme ça qu'est né notre projet.
Quand sortira le tome 6 et combien de volumes comptez-vous faire ?
Le tome 6 est sorti il y a 3 jours. 3-4 jours. Et combien de tomes va-t-on faire ? En fait, plus on avance, quand on commence une série de bandes dessinées, on ne sait pas combien de tomes on va pouvoir faire. Ça a du succès, on va pouvoir en faire beaucoup. Ça n'a pas de succès, ben, ça s'arrête. Ici, nous avons du succès, donc on va pouvoir continuer. Et l'idée, c'est de raconter la guerre. Maintenant, la guerre, c'est compliqué. Et combien de tomes va-t-il falloir pour le faire bien, sans tirer sur la ficelle ? C'est très difficile à dire. Donc, nous allons aller jusqu'à la fin de la guerre, et même un petit peu après la guerre, parce que y a eu quelques règlements de compte qui sont intéressants à raconter. Comment reconstruit-on après un pays après la guerre ? C'est intéressant de le raconter, donc peut-être un album supplémentaire après la fin de la guerre. Mais combien de tomes va-t-il falloir pour arriver jusque-là ? Nous n'en savons rien. Ça dépendra vraiment de ce qu'il y a à raconter, en sachant que la guerre devient de plus en plus riche et de plus en plus complexe au fur et à mesure. Donc l'année 1940, il suffisait d'un album pour la raconter. L'année 1942, il en fallait déjà beaucoup plus. L'année 1943, je ne vous raconte pas. Et l'année 1944, il y a tellement de choses qui se passent qu'il faudra la moitié d'un dictionnaire. Ça ne suffirait pas pour le raconter. Donc voilà, c'est le récit qui va nous guider et pas l'inverse. Il n'y a pas de plan pour le nombre d'albums.
Merci. Maintenant, je vais vous passer notre troisième camarade.
Bonjour, je m'appelle Timéo et moi aussi j'ai des questions à vous poser. Comment répartissez-vous les tâches entre dessinateur et scénariste ?
Je dessine et scénarise. C'est un peu simple. Nous fonctionnons en ping-pong. D'abord, il y a un brainstorming. On sait tous les deux où on va, ce qu'on a décidé de raconter plus ou moins, évidemment. Et puis après ça, c'est le scénariste qui prend le relais. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire sa partie de travail. Je laisserai en parler avant que je commence le dessin. Donc, c'est le scénario d'abord et puis le dessin après. Parce qu'on pose souvent la question, « Ah, vous dessinez ?» Et puis après ça, c'est lui qui remplit les ballons. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est lui qui écrit l'histoire et ce qui va rentrer dans les ballons. Et puis, moi, je dessine à partir de ça. Voilà, donc il m'envoie le scénario, j'en fais un premier croquis, je lui envoie le premier croquis, il réagit, ah oui mais il faudrait peut-être changer ça, et ça améliorer, etc. Donc je refais, je lui renvoie jusqu'à ce qu'on soit d'accord tous les deux, donc c'est vraiment en ping-pong. Et quand la page est finie, Vincent n'a pas énormément de pages en avance sur moi au niveau de l'histoire du scénario. Souvent il utilise des choses que j'ai dessinées, il les reprend à son compte pour influencer le scénario un petit peu plus loin.
Oui, donc on a une façon de travailler qui est un petit peu particulière, mais qui est possible parce qu'on s'entend très bien, on se connaît bien, on bosse ensemble depuis des années, et du coup, on fait effectivement ce que Benoît appelle ce ping-pong. Je pense que tu as tout dit, quoi. Hein. Le terme scénariste est un terme un peu bizarre, en fait. C'est un terme qui vient du cinéma. C'est quelqu'un qui met en ordre les scènes. Un scénariste de bande dessinée, il invente l'histoire. Un scénariste de cinéma n'invente pas forcément l'histoire. On va lui donner une histoire et il va l'organiser en scène. Et parfois, un scénariste, il adapte un roman, par exemple. Pour le cinéma, ça existe en BD aussi. Mais surtout, un scénariste de BD, il écrit des dialogues. Tandis que pour le cinéma, c'est un dialoguiste. Donc, en fait, il n'y a pas le bon mot qui existe pour ce métier dans la bande dessinée. Surtout que le scénariste, il raconte l'histoire case par case. Donc, il fait déjà une petite partie de la mise en scène aussi. Le dessinateur fait beaucoup plus et beaucoup mieux la mise en scène. Donc, c'est vraiment la richesse de ce métier-là. C'est qu'on travaille en petite équipe et ça, on peut travailler beaucoup de souplesse et on déborde chacun l'un sur l'autre, en fait. Benoît peut m'influencer et moi, je peux l'influencer. Quand on travaille dans l'industrie du cinéma, chacun fait son boulot et il n'y a pas trop de possibilités de s'influencer l'un l'autre, en fait. C'est tout à fait différent. Sauf pour des petites productions indépendantes et tout ça, mais enfin, bon, là, on rentre dans des cas particuliers. Voilà.
D'accord. Combien de temps vous faut-il pour réaliser un album ?
Entre le premier et le sixième, je dirais le temps va du simple au triple, ou plutôt du triple au simple. Quand on commence une série, avant le premier album, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quasiment un an de travail, rien qu'en préparation. Trouver les castings des personnages, savoir comment raconter, dans quel sens raconter, pourquoi raconter, que va-t-on dire, comment va-t-on s'y prendre, tout ça mérite un travail préparatoire énorme. Donc si on prend le premier album, quand il est sorti, j'aurais tendance à dire un minimum de 2 ans. Pour faire un album. Maintenant, quand on arrive au quatrième, les personnages sont inventés, on sait où on va, comment on raconte, la manière de le faire, ça va beaucoup plus vite. Chronologiquement, il nous faut 1 an pour réaliser un album. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un enfant de la résistance qui sort quasiment chaque fois pour Angoulême, d'année en année. Maintenant, en temps de travail, évidemment, nous sommes 2 à travailler dessus, donc si on cumule le temps de travail de 2, il faut 2 ans. Si on rajoute encore d'autres personnes qui interviennent, il faut quasiment 3 ans. Mais en temps chrono, pour la réalisation, donc pas la conception, le casting des personnages, etc., il faut 1 an pour faire un album. En ce qui nous concerne, d'autres auteurs sont beaucoup plus rapides et d'autres beaucoup plus lents. Ça dépend vraiment des capacités de chacun. Nous, c'est 1 an.
Merci. Des enfants se sont-ils engagés dans la résistance ?
Effectivement, beaucoup d'enfants se sont engagés dans la résistance, mais la plupart étaient au service de leurs parents. Hein? Donc, ils avaient des parents résistants, et puis ils étaient les petites mains de la résistance. Donc ça, on a eu l'occasion, Benoît et moi, de rencontrer plusieurs fois des vieux messieurs et des vieilles dames qui avaient été enfants résistants. Vous trouverez assez facilement la documentation à ce sujet-là, et un petit peu à la fin de nos albums aussi. Donc, ils ont fait des choses assez incroyables. Hein. C'est vraiment... le cliché, c'est le gamin qui cache des messages dans sa pompe à vélo ou dans le guidon de son vélo, des choses comme ça. Mais il y a des enfants qui ont fait des choses vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes. Par contre, ce qui est certain, c'est que la moyenne d'âge de la résistance était très très basse. Donc il y a beaucoup de garçons et de filles qui sont engagés dès 16 ans, 16 ans, 18 ans. Au moment de la libération, la moyenne d'âge de la résistance était assez proche de 18 ans en fait, quoi. Donc c'est plus des enfants, mais c'est des très jeunes adultes. Ce qui fait qu'on a des résistants qui ont eu des postes et des occupations très hautes dans la résistance qui sont encore en vie aujourd'hui. Donc il y a encore quelques personnes très haut placées dans la résistance qui sont en vie aujourd'hui. Donc, parce qu'ils étaient très jeunes. Ceux qui étaient père et mère de famille se sont peu engagés, et on peut le comprendre. Donc aujourd'hui, le secrétaire de Jean Moulin, donc Jean Moulin qui est quand même le résistant le plus connu en France, le plus célèbre, qui est mort pendant la guerre, hein, donc son secrétaire vit toujours. Donc il a 98 ans, un truc comme ça. Donc, mais c'est parce qu'il était très très jeune à ce moment-là. Il n'y a plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistants en vie aujourd'hui ou qui sont valides ou qui sont encore capables vraiment d'être actifs. Il y en a. Mais voilà, ils vieillissent fort pour le moment.
Une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant s'engage dans la résistance ?
Je vais me permettre de donner mon sentiment. Je pense qu'un enfant en 1940 n'avait pas tout... les codes, tous les accès à l'information pour s'engager réellement tout seul. Donc on a dû rendre ça crédible dans notre histoire. Mais on s'est basé sur un sentiment qui me semble important, c'est que quand on est enfant ou adolescent, on est très attaché à la justice. Je pense que tous les enfants sont des avocats en puissance. Ils ne supportent pas des situations d'injustice. Quand on est adulte, on ne les supporte pas plus que ça. Mais on se dit, il faut être réaliste et on va devoir faire des compromis, accepter des choses. Vous voyez une situation d'injustice, si vous en avez le courage, vous allez intervenir. Vous allez être choqué. S'il y a dans le cours de récréation une situation de harcèlement, vous allez trouver ça dégueulasse. Ou alors, si vous n'avez pas le courage, vous allez vous mettre avec les plus forts et vous allez derrière parce que voilà, on va se mettre avec les populaires, c'est quand même plus facile. Mais au fond de vous, il y a un truc qui se dit, non, il y a une situation d'injustice et je dois agir. C'est vraiment important. Et il me semble que c'est typique, surtout à l'adolescence, on a vraiment ce côté-là. On est révolté. Et c'est ça, la résistance, c'est désobéir et être en révolte dans une situation d'injustice.
Je crois que les enfants, enfin les jeunes, parce qu'on ne parle pas d'enfants de 10 ans, bien évidemment, dans ce cas-ci, il y en a qui l'ont fait, mais avaient simplement plus l'opportunité... Il faut bien se rendre compte que rien que trouver à manger, c'est déjà quelque chose d'excessivement difficile. Il fallait travailler, il fallait régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et les adultes, ils mettaient toute leur énergie pour réussir à faire manger leur famille. tout simplement, et protéger leur famille. Les seules personnes qui avaient du temps disponible, des opportunités disponibles, et parfois même qui étaient un petit peu obligées parce que si jamais ils ne s'engageaient pas, ne partaient pas en maquis, c'était l'Allemagne directement pour aller travailler, c'était les jeunes. Et donc effectivement la résistance était très jeune, et on peut parler d'enfants résistants, mais des vrais enfants résistants de 10 ans, 12 ans, comme monsieur Auduc qui est cité d'ailleurs dans le dossier du premier album, il y en a eu quand même relativement peu, et c'était les ordres des parents qui leur disaient ce qu'ils devaient faire. Ils étaient au service de leurs parents. Après ça, forcément, ils prennent conscience, mais le moyen d'entrer dans la résistance pour un enfant, au sens jeune du terme, c'est effectivement papa et maman qui demandent de faire quelque chose.
Je vais rajouter un petit élément. On a la chance de ne plus avoir de guerre. Nous, on vient de Belgique, ici, on est en France, mais on a la même histoire à peu près. On n'a plus de guerre depuis 80 ans, c'est merveilleux, c'est très très bien. Mais ces générations-là étaient habituées à avoir une guerre tous les 20-30 ans. Donc dans leur esprit, ils savaient que leur père avait fait la Première Guerre mondiale, leur grand-père avait fait une guerre en 1870, et d'autres avant, et c'était quelque part, parce que ça, j'en ai discuté avec des vieux messieurs là, qui ont 95 ans aujourd'hui, ils nous disaient, nous avons grandi dans cette idée que tous les 20 ans, il y avait une guerre et on devait faire quelque chose, on devait agir. Alors, évidemment, nous, on n'a pas ça, parce qu'on sait que ça n'existe plus et c'est tant mieux. Mais eux avaient quasiment ce conditionnement-là. Alors, ils n'avaient pas envie de faire la guerre, ils trouvaient ça horrible, évidemment, mais ils savaient que c'était quelque chose de cyclique et de régulier. C'est pour ça qu'après la guerre, on a inventé ce projet qui est l'Europe, pour faire quelque chose ensemble de pacifique, plutôt que de se taper dessus tous les 20-30 ans. Mais voilà, c'était quelque chose dans l'esprit de famille. Parce que le dimanche, quand on se retrouvait pour être en famille et discuter, ils nous disaient, ils parlaient des guerres, et les grands-pères parlaient de leurs blessures et de tout ce qui s'était passé dans les guerres. Donc, c'était vraiment dans leur esprit, ils étaient formatés comme ça. C'est très important. C'est un tout autre esprit, une toute autre époque.
J'ai une grand-tante qui a terriblement choqué dans ma famille, parce que quand la guerre a été déclarée, elle a crié à la volée, « Ah, enfin une guerre, comme ça vous allez enfin cesser de parler de la précédente. » C'est dire à quel point c'était courant les guerres.
Merci pour vos réponses à nos questions.